الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر.
لا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للوانج أبارتنا الله. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous nous réfugions auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'y a d'autres dieux qui doivent être adorés à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur messager, que les salutations et bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit et surtout ne mourrez qu'en étant parfaitement soumis, musulmans. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son conjoint et a fait naître de tous deux beaucoup d'hommes et de femmes. Et redoutez votre Seigneur au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et redoutez de rompre les liens de parenté car Allah est parfaitement observateur à votre sujet. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous les croyants, craignez Allah et dites des paroles droites. Il améliorera vos actions et pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager a récolté un immense succès. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم منها. Le plus véridique des propos est le livre d'Allah. Le meilleur guide est le guide, la guidance du prophète صلى الله عليه وسلم. Les pires des choses en religion sont leurs innovations. Toute innovation est un égarement et tout égarement se trouve dans le feu qu'Allah nous en préserve. Amma ba'd. Comme vous le savez tous, nous vivons une période où chaque jour on se dit que la situation est trouble. Chacun vit des soucis, des préoccupations, des problèmes, que ce soit individuels, que ce soit familiaux, communautaires, etc. Et souvent, on a cette idée qui vient, qui nous dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Comment devenir mes affaires ?» Et c'est dans ces moments-là, précisément, et à tout instant, qu'on doit revenir aux enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un hadith, un seul, qui est en fait une invocation. C'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Qala kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kathiran yaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Donc Anas radiallahu anhu dit: j'étais au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai souvent entendu dire, je souligne le mot souvent, je l'ai souvent entendu dire: oh Allah, je te demande la protection contre al-hammi wal-hazan, contre le souci et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids de la dette et contre la contrainte des hommes. On a là huit choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique comme étant des sortes de maladies ou de blessures du cœur ou du comportement. Et ces huit choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire tous les jours, quotidiennement, demander la protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre ces choses-là. Parce que elles amènent l'être humain à sa propre destruction. Et l'enseignement de cette invocation-là, en réalité, est un remède. Et on va venir point par point concernant ces choses-là contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection régulièrement et souvent. Et je précise que nous sommes là dans le cas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme qui ait marché sur cette terre, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la meilleure place, celui qui avait le meilleur caractère, le meilleur comportement. Et bien lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle à tous, il demandait protection quotidiennement contre ces fléaux, ces huit fléaux. Al-ham, Al-ham, le souci. Le souci, c'est l'angoisse. L'angoisse du lendemain, l'angoisse de l'avenir. La peur du lendemain, c'est l'anxiété. Aujourd'hui, on parle d'anxiété, d'angoisse. C'est réellement ça, le souci du lendemain. Et c'est lié justement quand on parle de l'ham, ça veut dire qu'on craint l'avenir, qu'on craint les choses à venir, que ce soit à court terme ou à long terme. On craint quoi ? On craint pour sa santé, on craint pour ses enfants, on craint pour son travail, on craint pour son argent, pour sa situation financière, on craint de ne pas arriver à boucler les fins de mois, on craint telle ou telle épreuve, etc. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, justement pour nous soigner de ces soucis, de cette crainte et de cette angoisse, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui redoute Allah, c'est-à-dire celui qui cherche à se protéger par Allah, celui-là, Allah lui ouvre une issue, il lui ouvre les portes et il lui apporte son rizq, sa subsistance, de là où il ne s'y attendait même pas. C'est-à-dire que la peur du lendemain, c'est quelque chose qui est humain, mais il est demandé aux croyants de toujours se rattacher à celui qui maîtrise, à celui qui contrôle. Le passé, le présent et l'avenir, c'est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wal-huzn ou al-hazan. Al-hazan, c'est ce qu'on traduit par la tristesse. Ça peut être la tristesse, ça peut être la déprime, ça peut être la déception. Mais c'est le hazan est toujours lié à quelque chose qui est passé. ça peut être une séparation, ça peut être un problème qui a eu lieu, un conflit avec une personne, un conflit familial, la perte d'une personne, que ce soit un décès ou une personne, une séparation qui a été forcée, contrainte, etc. Par exemple, ça ce sont que des exemples, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah protection contre cette tristesse. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du souci ou de la tristesse? Pas du tout. C'est quelque chose qui est humain. On connaît l'histoire de Youssouf alayhi salam et de son père Yaqub alayhi salam lorsque Youssouf a été éloigné par ses frères et que Yaqub alayhi salam disait Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains de ma peine, de ma détresse et de ma huzn, de ma tristesse qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Yaqub était profondément affecté de la séparation avec son fils Youssouf. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cette tristesse-là? Est-ce qu'on se laisse emporter par la tristesse? Est-ce qu'on se laisse emporter par le souci? Parce que la réalité, c'est que le souci et la tristesse sont comme des menottes ou comme des entraves qui viennent nous tenir et qui viennent nous empêcher d'avancer. Et vous allez voir dans la suite de l'invocation que j'ai citée tout à l'heure. Et donc, la question du souci et de la tristesse, ou de l'angoisse et de la déprime, de la tristesse, c'est quelque chose qui est dans la psychologie humaine et qu'on doit apprendre à canaliser. À canaliser, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser maîtriser, contrôler par ces choses-là. Le souci et la tristesse ne doivent pas prendre le dessus sur nous. Mais nous, on doit pouvoir prendre le dessus par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en se disant une chose. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle à Jibril alayhi salam des piliers de la foi, quand on parle du sixième pilier, vous savez, al-qadar, ou al-qadar, il a dit wa al-qadar wa tu'mina bi-qadari khayrihi wa sharrihi, c'est-à-dire ça fait partie des piliers de la foi de croire en, au destin et à la prédestination, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, des choses qui nous plaisent et des choses qui ne nous plaisent pas. Donc le fait qu'il s'est passé des choses dans le passé qui ne nous plaisent pas, ça ne doit pas nous faire toujours ruminer, au point où ça nous empêche de voir, de vivre le moment présent. Il faut se dire, قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. C'est Allah qui a destiné et c'est lui qui a, il a fait ce qu'il a voulu. Quant au souci, la peur de l'avenir, c'est pareil. Il ne faut pas que ça nous obsède au point d'oublier le moment présent, parce que finalement les deux choses, si on est coincé par l'une et par l'autre, le moment présent on ne le vit même pas, parce qu'on reste coincé soit à regretter le passé, soit à avoir peur de l'avenir. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de toujours demander protection à Allah contre ces choses là et je disais tout à l'heure que ces deux choses là, ces deux entraves, ces deux menottes, elles nous empêchent après de faire des choses, parce que elles font glisser l'être humain vers quoi? La troisième et la quatrième chose. C'est quoi? C'est Al-Ajz ou Al-Kassal. Al-Ajz, c'est l'incapacité. L'incapacité à faire quelque chose. On veut faire une chose, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que physiquement, soit on est malade, on a un problème de santé. Je veux prier debout. Je n'y arrive pas parce que je suis malade, donc je suis obligé de m'asseoir, etc. Je veux aller rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé ou rendre visite à un proche, mais la maladie ou un empêchement réel ne me permet pas d'y aller. Je suis dans un état de ajz, d'incapacité. Je veux faire le bien, j'ai la réelle volonté de le faire, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas la possibilité de le faire, je suis coincé d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est l'incapacité physique de faire les choses. Cette incapacité physique, quand on demande protection à Allah, ça ne veut pas dire qu'on va être toujours en capacité physique de faire les choses. Mais ça veut dire aussi que si je suis dans l'incapacité de faire une chose tout seul, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et par sa sagesse, il peut faire venir des personnes ou une personne qui va pouvoir m'aider à faire les choses, comme c'est bien le cas. Ici par exemple, alhamdulillah, les frères de la mosquée qu'Allah les récompense, pour les personnes qui ne peuvent pas venir assister à la Jumu'ah, ils se sont organisés de manière à pouvoir les transporter. Et c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Les personnes qui sont en état d'incapacité, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour elles un système qui leur permet justement de répondre à son appel, même si pour elle, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais c'est un fadl, c'est une miséricorde et un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ajz wa al-kasal. Al-kasal, c'est aussi une maladie du cœur. Et c'est une maladie, que ce soit individuelle ou collective. Qu'est-ce que c'est? Al-kasal, c'est la paresse. Pour parler en termes plus actuels, la flemme. Quand on dit à quelqu'un, et si on faisait ça? J'ai la flemme, on verra plus tard. On verra plus tard, on verra plus tard. Mais ce plus tard-là, qui te le garantit que tu vas vivre plus tard, premièrement, hein? Et deuxièmement, la paresse, c'est une des armes d'Iblis. C'est que Shaitan, en fait, il essaie de nous faire toujours diffuser les choses à plus tard, à plus loin, en disant, mais tu le feras plus tard, plus tard, plus tard. Pourquoi? Parce que lui, sa stratégie, c'est d'essayer de nous empêcher au maximum de faire le bien. Donc la paresse, contrairement à l'incapacité, et là aussi j'attire votre attention mes frères et mes sœurs là-dessus, sur la paresse, c'est que souvent on est tenté de dire « Ah, je ne peux pas le faire ». Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est qu'en réalité je peux le faire, j'ai la possibilité de le faire, j'ai la capacité de le faire. Mais parfois on dit « Je ne peux pas » pour dire « Je ne veux pas ». Je ne veux pas, je n'ai pas envie. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que c'est une véritable maladie, qu'il faut lutter contre ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى رَحْمَةِ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا. سَارِعُوا, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire dirige-toi, ça veut dire allez, lève-toi, cours, cours, dépêche-toi. Pourquoi? Dépêche-toi, pourquoi? Pour rechercher la miséricorde, rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la lutte contre la paresse. Et cinquième et sixième fléau, c'est Wal-djoubni wal-bukhl. Al-djoubni, qu'est-ce que c'est? C'est la lâcheté. La lâcheté, en d'autres termes, c'est le manque de courage. Le manque de courage, c'est pas d'aller se lancer dans la gueule du loup, comme dit. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est de défendre, de se défendre sa dignité, de dire la vérité, d'être franc. Alors franc, ce n'est pas agressif, c'est être franc avec les gens, de dire les choses, de ne pas avoir peur de dénoncer par exemple une injustice, de le dire. De le dire, c'est du courage, ou c'est en tout cas lutter contre la lâcheté. Le djoubn, c'est d'être capable de dire les choses, et parce que le djoubn, c'est quelque part, c'est une peur. C'est une peur de quoi? On a peur des gens. On a peur parfois même pas des gens, mais du regard des gens, de ce que les gens vont penser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'agit pas. Il y a des choses à faire et on ne les fait pas parce que, par lâcheté. C'est une sorte de peur. Et al-bukhl, c'est l'avarice. L'avarice, c'est, certains le traduisent par le fait d'être radin, de ne pas donner. L'avarice, c'est de toujours tout garder pour soi, de ne rien donner matériellement. De ne rien donner aussi, celui qui a du savoir, de ne pas le donner. Celui qui peut donner des conseils, qui ne les donne pas. Ça, c'est une forme de bukhl, d'avarice. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé de ne pas faire, de lutter contre ça. Or, nous vivons dans un monde qui est individualiste, où c'est l'individu qui est au centre de la société. C'est pour moi, moi, tout le temps moi, tout le temps moi. Et forcément, quand on raisonne comme ça, eh bien, l'avarice est toujours là. Les gens pensent à eux et uniquement qu'à eux, et qu'Allah nous préserve de ça aussi. Et puis, septième et huitième fléau, l'endettement. Le poids de l'endettement et la contrainte des hommes. Le poids de l'endettement, c'est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se réfugie régulièrement contre le poids de l'endettement, parce que de s'endetter, il y a des raisons valables de s'endetter. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui veut juste subvenir à ses besoins, qui se bouge, qui essaie d'avoir les moyens, mais qui n'y arrive pas, qui à un moment donné est en panne. Il s'est passé quelque chose d'imprévu. Il va s'endetter pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ça, c'est une raison valable. Mais il y a une forme d'endettement qui est absolument détestable. Mais c'est la société dans laquelle on vit qui nous pousse à ça, cette société de consommation, cette société qui nous pousse à vouloir paraître aisé, riche, vivre dans le confort, qui nous pousse à vivre au-dessus de nos moyens. Les crédits à la consommation, les crédits de façon générale, les paiements en temps de fois sans frais, etc. Je ne parle pas des gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est une chose particulière. Je parle d'un mode de vie duquel nous, on doit se méfier. Parce que quand on vit dans la dette, quand on vit dans l'endettement, la personne à qui on doit peut arriver le lendemain, frapper à la porte. Tu me rends ce que tu me dois. Et on se met à essayer de trouver des excuses. On va se mettre à mentir. On va se mettre à faire des promesses qu'on ne tiendra pas, etc. Or, on sait bien, le mensonge et le fait de ne pas tenir ses promesses, ça fait partie des grands péchés qu'Allah nous en préserve. Et quand on est sujet dans le poids de la dette, on est à la merci des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se demandait protection aussi contre la contrainte des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui peuvent nous mettre dans la contrainte pour des choses valables, pour des choses légitimes. Quelqu'un qui nous a prêté de l'argent, qui vient nous mettre la pression en permanence, c'est son droit, il faut que je le lui rende, mais je n'y arrive pas. Ça, on demande protection à Allah contre ça. Et il y a aussi les gens qui, que ce soit des hommes, que ce soit des systèmes, etc., qui vont nous mettre à l'étroit, qui vont nous poser des contraintes, comme par exemple une société qui n'aime pas par exemple que les gens pratiquent leur religion de façon libre. Je ne parle pas forcément d'ici, je parle de toutes les sociétés où on refuse ça, on va mettre les gens à l'étroit par rapport à leur pratique religieuse, et on va mettre les gens sous contrainte, et on va leur faire ceci et faire cela, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection à Allah contre tout ça. Et donc je répète le dua parce que c'est quelque chose que ceux qui ne le connaissent pas se doivent de le connaître, parce qu'il est absolument fondamental, et encore plus à notre époque, parce que ça nous permet de renforcer nos cœurs, et ça permet de renforcer, de purifier nos âmes et de renouer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui contrôle tout et c'est lui qui décide de tout. Et avant de répéter ce dua, je citerai un exemple d'un sahabi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été pris dans une embuscade lors d'une expédition. C'était même pas une expédition, il a été pris dans une embuscade, il y a eu une trahison, et au moment où il y a eu cette trahison, lui, il avait été envoyé pour enseigner le Coran à une tribu. Et puis, il est parti, et sur le chemin, il a senti que c'était en fait, il a compris que c'était une embuscade, puisque un ennemi l'a frappé dans le dos, un coup d'épée ou un coup de flèche. Il savait que c'était fini pour lui, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Fouztu wa rabbil Ka'ba ». Ça a été sa dernière parole avant de tomber. Il a dit, j'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba. C'est-à-dire que la notion de réussite, c'est que lui, il est parti avec une intention sincère de faire le bien, d'enseigner le Coran, d'enseigner l'islam à des gens, parce qu'il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas arrivé jusqu'à son objectif parce qu'il s'est passé un acte de trahison. Il a été trahi, et au moment où il est tombé, il a dit, j'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba. C'est-à-dire, la véritable réussite, c'est celle de rester fidèle à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans ses enseignements et dans le chemin qu'il nous demande de suivre, et de ne pas nous laisser tenter, et de ne pas nous laisser séduire, et de ne pas nous laisser affaiblir par ces huit fléaux que je répète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma inni a'udhu bika min al hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dira'i d-dayni wa ghalabati r-rijal » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Mes frères et sœurs, cette parole qui est précieuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est à méditer et à pratiquer, non seulement dans notre quotidien à nous, pour notre vie individuelle que chacun doit avoir pour soi, mais c'est aussi une leçon qui doit nous montrer à nous, de façon par rapport à notre dimension communautaire, comment nous, en tant que communauté musulmane, en tant que croyants, on ne doit pas se laisser tomber dans ces genres de pièges, ces pièges sataniques, collectivement. Parce que ça fait des années, et ça continue. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'actualité, si on la regarde comme ça, elle ne nous fait pas plaisir. Que ce soit ici à Marseille, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. Partout où on regarde, on voit des choses qui ne nous font pas plaisir. Et des choses qui ne nous font pas plaisir,
collectivement et où on a beaucoup plus souvent et on a plus souvent des discours et des discussions où on entend les gens dire ah, qu'est-ce que tu veux faire? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais déjà hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, ça veut dire Allah nous suffit et quel bon protecteur. Et quand on le dit, malheureusement, on le dit d'une façon, les sourcils froncés, avec du pessimisme. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Au contraire, hasbunallah wa ni'mal wakil. Quel est le meilleur protecteur qu'Allah? Si je suis fidèle à Allah, si j'essaie de lui obéir, si je l'adore, Allah me suffit. Donc c'est quelque chose, c'est une parole qui doit nous pousser vers l'optimisme. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous dit la tiyarata, la tiyarata wal khayru al fa'l. Il n'y a pas de superstition, il n'y a pas de mauvais augure, il n'y a pas de, mais le fa'l, c'est-à-dire le bon augure, est meilleur, c'est mieux. Et les compagnons lui demandent wa ma fa'lu ya Rasulullah. Et qu'est-ce que c'est que le fa'l? Ce qu'on traduit parfois par l'optimisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Idkhal as-sudur 'ala al-mu'min wa taqdi 'anhu daynan wa taqdi lahu haja wa tunaffisa lahu karban aw kurbatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'est-ce que c'est que le fa'l? C'est le fait de faire entrer la joie dans le cœur d'un croyant. Et c'est le fait aussi de libérer. Dans une autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-qawl as-sarih yasma'uha ahadukum, yasma'uha ahadukum. C'est-à-dire al-fa'l, l'optimisme, c'est la bonne parole, la parole vertueuse que l'un d'entre vous entend. La bonne parole. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les situations, revenez à la vie, à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez toutes les épreuves qu'il a vécues, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que tous ce sont les prophètes qui sont les plus éprouvés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec toutes les épreuves qu'il a vécues, à aucun moment il n'a fléchi sur le bon, l'idée correcte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon jugement et l'optimisme. Et quand nous on entend ah mais qu'est-ce que tu veux faire, on peut rien faire, et nous on est divisé, et nous on est affaibli, et nous on est ignorant, et ceci et cela, ça c'est pas des paroles à dire en tant que croyant, c'est peut-être une partie de la réalité. Mais nous, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de pleurer la réalité quand elle n'est pas bonne. C'est pas ça qu'on nous demande. On ne nous demande pas de pleurer. On ne nous demande pas d'être comme des enfants. Alors qu'on est des adultes, il nous est demandé d'agir. Et clairement, ce qui nous empêche d'agir, c'est les fléaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Collectivement, le fait de dire ouais mais il s'est passé ça, mais qu'est-ce que tu veux réussir à faire, etc. Non, il faut être optimiste. Il faut être optimiste, ça ne veut pas dire idéaliste, ça ne veut pas dire que tout va se régler du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut toujours garder l'idée positive, un esprit positif, pas un esprit négatif, pas un esprit défaitiste. Tout à l'heure je parlais de l'incapacité et de la paresse. C'est un véritable fléau dans notre communauté. Mais il faut le régler, il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça parce que, tout simplement, nous avons des comptes à rendre yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demandera pas des comptes sur les résultats. Il nous demandera compte sur nos actions. Il nous demandera compte sur nos intentions et nos actions. Il faut qu'on fasse partie, je dirais, du bon côté de l'histoire avec un grand H, de notre histoire en tant que croyants, en tant que communauté. Il faut qu'on fasse partie de ceux qui ont essayé. Il y a certes des difficultés sociales, économiques, politiques, etc. C'est de notre responsabilité en tant que croyants de se mettre à l'œuvre, de travailler ensemble. Nous ne sommes pas des anges, nous avons nos qualités, nous avons nos défauts, mais faisons en sorte que nos actions, elles soient à la fois pour lutter contre ces fléaux-là, contre le souci, la tristesse, l'incapacité, l'avarice, la lâcheté, etc., de se renforcer mutuellement. Vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le verset a été révélé dans un contexte d'une bataille, certes, mais le sens du verset est quelque chose qui s'applique à toutes les situations de groupe. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus » Allah aime ceux qui luttent sur sa voie, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah, « saffan » en rang serré, « ka'annahum bunyanun marsus » c'est-à-dire comme un mur fortifié. C'est ça qui nous est demandé. « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Tenez-vous tous solidement au lien d'Allah et ne vous divisez pas. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Ça veut dire que nos efforts, ils doivent se diriger vers là. Iblis, il cherche à séparer les gens. Il cherche à séparer l'être humain de son Seigneur. Il cherche à séparer le croyant du croyant. Il cherche à séparer le mari de sa femme. Il cherche à séparer les parents de leurs enfants. Il cherche à séparer le voisin du voisin. Il cherche à séparer les gens de la vérité, de la justice. C'est ça qu'il cherche à faire, lui. Et il agit jour et nuit, avec toutes ses troupes et tous ses soldats et ses armées. Eh bien, nous, il nous est demandé de faire, de multiplier nos efforts dans le sens inverse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut exactement l'opposé. Il veut le contraire. Il veut la vérité. Il veut le lien. Il veut la concorde. Il veut le bien. Il veut la justice. Il veut la vérité. Il veut le courage. Il veut la dignité. Il veut la générosité. Il veut l'entraide. Il veut la solidarité. Et c'est que comme ça qu'on aura une véritable amélioration de nos conditions de vie collectivement. Et donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre utile ce rappel à moi en premier et à vous-même. Allahumma aghfir lana warhamna wa tub 'alayna wa'fu 'anna Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada Allahumma inna na'udhu bika min al-hamm wal hazan wa na'udhu bika min al-'ajz wal kasal wa na'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa na'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana 'ala dinik ya musarrif al-qulub sarrif qulubana li ta'atik Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan Allahumma ij'alna kal-bunyan al-marsus ya rabb al-'alamin Ya Arhamar Rahimin. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous faire miséricorde, d'affermir nos cœurs sur sa voie, dans cette religion, d'affermir nos cœurs sur l'obéissance à Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on agisse les uns les autres en rang serré et solidaire. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à tous nos frères et nos sœurs qui souffrent à travers le monde, que ce soit en Palestine, dans le Chem, en Libye, au Yémen, que ce soit en Chine, en Birmanie, parce qu'on les oublie tout cela, que ce soit à travers, que ce soit en Europe, en Occident, en Afrique, partout où nos frères et nos sœurs souffrent, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur venir en aide et de nous renforcer dans la foi, dans son obéissance. Wa sallallahu wa sallam wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.